Voilà, à partir du verset 13, on lira. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Je vous propose deux autres lectures, on gardera ce texte de base, mais je vous propose aussi dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, donc ce chapitre sur la foi, Hébreux chapitre 11, nous lirons à partir du verset 32. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Et deux derniers versets dans le psaume 91. Psaume 91, nous lirons seulement le verset 4 et 5. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Voilà, nous verrons ce soir, donc, comme je l'ai dit, une autre arme majeure dans la panoplie du combattant spirituel, le bouclier de la foi. Nous devons non seulement connaître l'enseignement sur le bouclier de la foi, mais également, eh bien, nous en servir, utiliser ce bouclier afin qu'il soit efficace contre les traits enflammés du malin. Et Dieu a mis tout cela à notre disposition pour le combat. Et quand je lis dans le Nouveau Testament, plus particulièrement dans l'Ancien aussi, mais dans le Nouveau, tout ce qui a trait à l'ennemi, à ses ruses, à ses tentatives, à sa puissance, et quand je vois les armes que Dieu a mises à notre disposition, elles sont puissantes, nous dit Paul, même pour renverser les forteresses. Il y a les armes offensives et les armes défensives. Et quand je lis tout cela, je me dis, si Dieu nous a donné des armes tellement puissantes, c'est que le combat est rude. Le combat est rude et nous devons nous y engager. Il y a comme un paradoxe dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à rester en paix, à reposer à l'ombre du Tout-Puissant et en même temps à marcher, à courir. Nous sommes appelés à rester tranquilles et en même temps à combattre. Mais je crois qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Je crois que nous pouvons marcher à l'ombre du Tout-Puissant et la Bible nous y invite. Et nous pouvons aussi reposer en paix tout en combattant. Nous avons la paix dans notre cœur parce que Jésus, c'est le prince de la paix. Rappel, dans les versets 10 à 13, les chrétiens sont engagés donc dans une grande bataille contre un ennemi puissant et implacable. Notre ennemi, le diable, emploie des ruses, des tentatives, des astuces, des stratagèmes pour saper notre foi. Et ainsi, quand il sape notre foi, quand il nous touche, il touche aussi à la gloire de Dieu. Parce que nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Alors Dieu désire que nous puissions résister aux attaques de l'ennemi, tenir ferme, nous tenir debout. La position biblique, c'est l'image d'un soldat refusant de céder ne serait-ce qu'un pouce de terrain à l'ennemi. Et je crois qu'il nous faut nous armer de cette pensée de ne rien vouloir céder à l'ennemi dans tout ce que Dieu nous a donné. Ce soldat est sur la défensive, protégeant le terrain qui a été pris à l'ennemi. Quand nous nous sommes convertis, nous avons été comme un tison arraché du feu. Nous avons été arrachés des griffes du malin. Quand nos enfants, nos familles ont été sauvés, elles ont été arrachées. Et nous voulons conserver et tout ce que Dieu a mis dans notre cœur. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, et seulement le verset 11, je l'ai noté, mais si vous allez vite pour chercher, vous pouvez y aller, de Samuel 23, 11, il est parlé d'un personnage. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Letchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Et Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Quelle image, quel témoignage. Tous fuyaient, mais Shama avait décidé de protéger tout ce que Dieu lui avait donné. Il a refusé de laisser ce champ à l'ennemi, aux Philistins, et ayant décidé de combattre, ayant décidé de se mettre devant l'ennemi et refusé, eh bien Dieu a été avec lui et lui a accordé une grande victoire. Ça, c'est par la foi. Ça, c'est, nous voulons le vivre dans notre vie au quotidien, par la foi. Nous nous levons dans la prière, nous nous tenons, nous intercédons et nous ne voulons pas céder aucun pouce à l'ennemi. Je pense également à cette parole de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1,14. L'apôtre Paul dira « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon dépôt. Dieu nous a donné des choses précieuses, des choses glorieuses. Et l'ennemi le sait et il veut saper ces choses afin que la gloire de Dieu soit touchée. Si nous voulons rester debout, nous devons et gagner du terrain et nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est dire combien le combat fait rage. Je crois que dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie ennuyeuse. En tous les cas, quand le Saint-Esprit agit en nous, ce n'est pas une vie monotone, triste, ennuyeuse. Le Saint-Esprit nous donne de combattre. Il y a de la joie, il y a des pleurs, il y a de la douleur, mais nous combattons et nous remportons des victoires parce qu'à la fin, la victoire est assurée parce que c'est Christ qui l'a remporté pour nous. Alors, nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise dans ce combat. Je crois que les uns et les autres, nous avons à récupérer des choses que l'ennemi a subtilisées. Comme David, quand il est revenu à Tsiklag, il a vu que la ville avait été brûlée, que les ennemis avaient emporté les femmes, enfants, le bétail, ils avaient pris et il est parti, il est dit, s'appuyant sur l'Éternel. Avec confiance, il est parti avec son armée et puis il a récupéré tout ce que l'ennemi lui avait volé, tout. Il n'a rien eu qui soit resté dans le camp de l'ennemi. Eh bien, ayons cette même pensée, cette même dans notre cœur, afin que nous puissions récupérer ces choses. Alors, le bouclier de la foi. Les boucliers étaient très importants pour le soldat romain, et l'apôtre Paul fait une analogie avec le soldat, la panoplie du soldat romain était très important, ce bouclier. Il y avait plusieurs sortes de boucliers. Il y avait utilisé par les Romains pendant cette période. Deux types étaient le plus couramment utilisés. Ils avaient des boucliers sur les bras, ils s'attachaient comme sur les deux bras, ils avaient des boucliers pour le combat au corps à corps, pour pas que l'épée vienne trancher, marquer le bras. Donc ils avaient ces boucliers-là. Mais dans notre texte, ce n'est pas de ces boucliers-là dont il est question, mais il est question d'un autre bouclier qui est beaucoup plus grand. Il mesurait en moyenne 1,20 m de haut sur 80 cm de large. Ce bouclier qui pouvait, dans lequel il pouvait se cacher tout entier, tout le corps pouvait être protégé par ce bouclier. Ce bouclier était généralement fait de bois massif avec recouvert, c'était soit du cuir, soit du métal qui était recouvert par-dessus ce bouclier qui était imposant, qui était lourd, qui était costaud et donc il pouvait protéger le soldat romain, son corps tout entier, se protéger des flèches enflammées qui arrivaient de loin. Nous sommes conscients que la foi est l'élément principal, indispensable dans notre vie chrétienne. Sans la foi, nous dit la parole, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans ce chapitre 11, dont nous avons lu quelques versets, nous voyons que tous ces croyants, cités les uns après les autres, il est dit chaque fois par la foi, ils ont remporté des victoires, ils sont restés fidèles. Ils ont été protégés, certains ont même accepté de mourir par la foi pour la gloire de Dieu. Alors la foi est une obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu. La foi n'est ni passive, elle n'est pas passive, mais elle appelle à une attitude, à une action et même à une déclaration. Dans la parole, il y a des déclarations de foi. La foi est donc indispensable pour protéger notre vie spirituelle tout entière et conserver et même développer ce que Dieu nous a donné. Comme nous l'avions médité le dimanche, Dieu nous appelle à grandir dans les choses de Dieu, dans la prière, dans la foi, dans l'amour, à grandir dans l'image de Christ en nous. Et comme le bouclier protégeait tout le corps, d'attaque de près, mais surtout de loin, eh bien la foi nous protège. C'est très enflammé, ces flèches imprévisibles partaient de loin à une vitesse impressionnante. Là, si vous avez déjà vu le tir à l'arc, les flèches, à la vitesse où elles vont, à une distance aussi importante, et ces flèches avaient les pointes qui étaient enrobées de tissu, les pointes de ces flèches enrobées. Et par-dessus ce tissu était imbibé de poids, c'est-à-dire de résine ou de goudron, et enflammé. Quand il les tirait, elles étaient enflammées. Ces flèches faisaient des dégâts quand elles touchaient la cible, mais non seulement elles faisaient des dégâts sur la cible, mais le feu se répandait tout autour. Alors c'était redoutable pour les armées. Et le bouclier qui au préalable était trempé dans l'eau, était imbibé d'eau, et quand ces flèches touchaient, se plantaient dans ce bouclier, elles s'éteignaient parce que eh bien, le bouclier était trempé d'eau et ça éteignait ces flèches enflammées. Les traits enflammés du malin, le diable, il veut nous atteindre pour qu'il y ait des conséquences dans notre vie, mais aussi autour de nous. Vous savez que si le diable arrive à toucher un enfant de Dieu, arrive à par la tentation, par toutes ces choses, arrive à l'atteindre, eh bien il atteindra aussi ceux qui sont autour. Un conjoint est touché, la famille est touchée, un enfant est touché, la famille est touchée. Et donc non seulement un, mais le feu se répand aussi autour. Alors nous voulons veiller, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi nous voulons prier pour les nôtres. Et comme le faisait Job, il apportait dans la prière ses enfants, il se sanctifiait pour eux, afin que Dieu puisse eh bien, les garder, les préserver. Alors il y a de nombreuses cibles pour Satan qu'il veut toucher, mais j'en ai relevé seulement trois pour ce soir, trois cibles que l'ennemi veut toucher. D'abord, on lira un verset dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Ce verset, il nous est dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors le salut, c'est pas juste, entre guillemets, je mets bien sûr, le salut, c'est pas juste pour nous éviter l'enfer. Le salut a un but. L'apôtre Paul le dira dans Romains 8, le salut, nous sommes sauvés et Dieu veut nous amener de plus en plus à la ressemblance de Christ. Il veut recréer en nous l'image eh bien, qui a été abîmée par le péché dans le jardin, à partir du jardin d'Éden, et Dieu veut le recréer, cette image en nous, dans son Fils. Et donc, le but de la vie chrétienne, c'est que nous puissions glorifier Dieu. Quand nous sommes sauvés, nous nous détournons du péché et nous marchons dans une vie qui plaît à Dieu, une vie qui lui est agréable, une vie qui est loin du péché, loin du mal, loin des ténèbres. C'est le but du salut. C'est pas seulement d'être sauvé, on a levé la main, voilà, j'ai l'assurance du salut. Non, le salut, eh bien, ça va beaucoup plus loin. Le salut, finalement, c'est ce que nous avons lu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, que nous ayons une vie de sainteté. Une vie de sainteté qui va glorifier notre Seigneur. Une vie de sainteté qui va porter du fruit, qui va être efficace, qui va bénir ceux qui sont autour de nous. Le diable va attaquer cette vie sainte, cette vie pure. Il va l'attaquer par des traits enflammés, des pensées mauvaises qui viennent. Et si nous les laissons venir, elles vont enfanter des choses négatives. Le diable, ça ne lui fait rien que nous ayons accepté Christ. Mais ce qu'il veut à tout prix nous éviter, c'est que Christ vive réellement dans notre cœur et porte du fruit au travers de nous. Ça, il ne peut le supporter. Que nous ayons accepté Jésus, que nous soyons même passés par les eaux du baptême, mais il veut que nous soyons des chrétiens inefficaces, des chrétiens qui ne portent pas de fruits, des chrétiens qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ce qu'il veut et il lancera ses traits enflammés pour saper notre foi. Mais Dieu nous a sauvés et nous a fait des promesses afin que nous puissions aller de l'avant. Il est avec nous et nous devons nous détourner bien sûr du mal et nous devons laisser le Saint-Esprit vivre en nous. Donc le premier point que le diable veut attaquer, c'est la sainteté dans notre vie, qui reflètera eh bien, la vie de Christ, pas seulement la sainteté, mais la sainteté là en l'occurrence. Deuxièmement, deuxième cible, toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous est dit « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance » pour que nous les pratiquions. » Là, le diable, eh bien, là aussi, il veut toucher. Il ne veut absolument pas que dans notre vie, la priorité, ce soit la volonté de Dieu, que la priorité, ce soit de servir le Seigneur, que la priorité, ce soit d'accomplir ses œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le diable ne peut pas le supporter, cela, parce que, eh bien, quand nous servons le Seigneur, quand nous accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance, eh bien, il va y avoir du fruit, il y aura des gens touchés, il y aura peut-être des familles sauvées, et ça, le diable ne le veut pas. Et il veut que nous soyons sauvés nous-mêmes, restions tranquilles, et ne pas accomplir la volonté de Dieu dans ce domaine, que nous ne soyons pas des moyens de bénédiction. Mais Dieu nous a sauvés pour servir. Dieu nous a sauvés pour être saints, Dieu nous a sauvés pour servir, pour porter du fruit, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions là, à attendre qu'un jour il revienne passivement, nous attendons et nous gardons ce salut égoïstement pour nous, à la limite pour ceux qui sont autour de nous, mais Dieu nous appelle à aller porter le témoignage, la bonne nouvelle, plus loin, autour de nous, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu a prévu ces œuvres pour chacun d'entre nous, afin que je m'engage avec sa grâce et son secours à le servir, et non pas que je vive pour moi. Vous savez que quand on est chrétien, on ne vit plus pour soi-même, mais on vit pour le Seigneur et on vit aussi pour les autres. Et enfin, une troisième cible, et nous allons nous y arrêter quelques instants, une troisième cible, nous trouvons cela dans l'Épître aux Philippiens. Toujours dans Éphésiens, pardon. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et je lirai les trois premiers versets. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu d'unité. Nous voyons en Christ, il y a l'unité. Dans le ciel, il y a l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis. La prière de Jésus dans Jean 17, appelée la prière sacerdotale, Jésus prie pour que le peuple soit un comme le Père et lui sont un. L'unité par le lien de l'Esprit. Dieu a établi le corps avec une place pour chacun, celle que Dieu a établie. Et le diable s'attaque à cette unité parce qu'il sait, comme nous l'avons vu, une vie sainte est efficace. Une vie qui accomplit la volonté de Dieu, les œuvres, est efficace. Un corps uni, une église unie, est efficace. Et le diable le sait bien, et c'est là qu'il va essayer de casser cette unité, de la ternir, de la modifier par les sentiments qu'il y a dans les cœurs, que ce soit la jalousie, la rébellion, l'esprit de compétition, la critique, etc., l'amertume et toutes ces choses qui vont saper quelque part cette unité. Nous sommes unis en Christ et nous devons conserver l'unité de l'esprit. C'est Dieu qui l'a établie et nous devons la conserver par notre vie, par notre témoignage, par nos paroles, par nos pensées aussi. Nous devons conserver cette unité de l'esprit du corps de Christ. Et si un croyant touche à un autre croyant, nous touchons le corps. Le corps est touché. L'unité du corps de Christ est une cible privilégiée du diable. Pensons à l'église de Corinthe. Regardez cette église qui était, elle avait tous les dons, il y avait des miracles, il y avait des choses qui se passaient dans cette église. Et à cause des pensées négatives, des attitudes charnelles des chrétiens, il y avait cette unité qui était cassée. C'est dommage, parce que déjà qu'il y avait des bonnes choses, il y en aurait eu encore davantage. Alors, donc, une vie sainte, le service pour le Seigneur, ce à quoi le Seigneur nous appelle les uns et les autres, et l'unité du corps de Christ. Et souvent, c'est le découragement que le diable va appuyer sur le découragement pour que nous baissions les bras. D'abord, une vie sainte. Quand nous lisons l'Écriture avec attention, le Nouveau Testament, les Épîtres, nous le lisons avec attention, nous pourrions nous dire « mais ça, c'est un objectif qui est trop élevé pour moi. Je n'arriverai pas à atteindre cette stature que Dieu veut pour moi, mener une vie sainte, une vie qui lui est agréable. C'est peut-être trop élevé pour moi et le découragement peut nous saisir. » Mais là aussi, c'est par la foi que nous pouvons vivre ce que naturellement on ne pourrait pas vivre, mais que nous puissions vivre ce que Jésus nous a acquis à la croix du calvaire. Il a payé cher pour nous accorder ce qu'il nous a accordé. Il l'a payé très cher. Il l'a payé de sa vie, il a versé son sang afin que nous soyons, que nous vivions en nouveauté de vie. Regardez 1 Corinthiens 1:30, je le lis pour vous, c'est tellement extraordinaire. 1 Corinthiens 1:30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. » La vie du Christ en nous nous rend capables de vivre en nouveauté de vie, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu vivre naturellement, charnellement, on n'aurait jamais pu vivre ces choses, mais l'Esprit de Dieu, Christ en nous, nous donne de sa vie dans notre vie. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est extraordinaire. Ne nous décourageons jamais parce que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il l'achèvera pour le jour de Christ. Serrons ces choses dans notre cœur, ne nous laissons jamais décourager. Ce que Dieu dit dans sa parole, il nous donne aussi le pouvoir de le vivre. Naturellement, bien sûr, on ne peut pas. Religieusement, on ne peut pas vivre ce qui est écrit, mais le Saint-Esprit nous rend capables. J'aimerais que nous soyons encouragés dans ce domaine. Oui, il est capable de vivre une vie qui plaise au Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Également, le découragement dans le service. Nous pouvons être découragés dans le service et nous pourrions dire peut-être je n'en suis pas capable, je n'ai pas le temps, on ne me demande pas, je voudrais faire ça, on ne me demande pas, ou je n'en ai peut-être même pas la volonté de servir, de chercher ce à quoi Dieu m'appelle. Peut-être je me dis, voilà, je suis fatigué. Moi, je crois que c'est pour chacun. Peut-être mes frères et sœurs, peut-être quelqu'un est fatigué, peut-être avancé en âge aussi, mais Dieu vous appelle. Vous êtes inclus dans le service de Dieu, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce à quoi il vous appelle, c'est pas ce que Dieu, ce à quoi Dieu m'appelle. Chacun, nous sommes appelés à quelque chose de particulier, les uns et les autres, et c'est ce qui fera la richesse et la beauté de l'Église. N'oublions pas que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et si le Saint-Esprit agit librement dans notre cœur, il va créer en nous des désirs nouveaux, un zèle nouveau, une soif nouvelle. N'oublions pas que le service le plus utile, ce n'est pas forcément un service visible, je l'ai déjà dit, mais le service le plus important, c'est l'intercession et l'évangélisation. Je ne parle pas de l'adoration ensemble, mais tout seul, chez nous, l'intercession, le combat spirituel que nous sommes en train d'étudier, et l'évangélisation. Voilà, à l'extérieur, Dieu nous demande ces services qui sont importants. Après, certainement, il y a d'autres choses que le Seigneur, ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais si nous devions résumer, prier, combattre, intercéder, ça c'est dans nos maisons, tout seul, dans notre bureau, dans notre chambre, nous intercédons, nous prions de tout notre cœur parce que le combat est âpre et Dieu nous a appelés à combattre. Il aurait pu nous appeler en disant, ben, vous n'avez rien à faire, tout a été fait. Non, Christ a tout accompli pour notre salut, mais il a remporté la victoire, mais il veut que nous combattions. Et le deuxième, c'est l'évangélisation. Alors, Dieu nous a donné un cœur, il nous a donné une bouche, et nous pouvons dire ce que le Seigneur a fait pour nous autour de nous. On n'a pas besoin d'une équipe, d'une préparation, on a besoin de prier, de se tenir devant Dieu et de témoigner. Voilà les deux services les plus importants pour l'Église. L'Église est appelée à être la lumière, à témoigner, à répandre le message de l'Évangile. On n'est pas tous appelés à prêcher, mais on est tous appelés à témoigner. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit répandu, le baptême du Saint-Esprit, nous sert à être des témoins. Donc, ceux qui l'ont reçu, et même ceux qui ne l'ont pas reçu, eh bien, nous sommes appelés à témoigner. Le diable met des flèches enflammées dans notre cœur pour que des sentiments négatifs viennent en nous, des pensées négatives. Mais ce que Dieu a prévu pour moi, il me permettra de l'accomplir par la foi. As-tu la foi? Manifestes-tu la foi? Mais ta foi est-elle mise en pratique? Eh bien, c'est sûr et certain que le Seigneur te montrera ce à quoi il t'appelle et personne ne prendra ta place. Regardez David, quand il a été appelé, eh bien, David n'était pas inclus, il était derrière les troupeaux. Tout le monde a regardé ce qui frappait les regards, les frères qui étaient beaucoup plus grands, etc. Mais Dieu lui dit non, c'est pas celui-là, il y en a un autre. Et c'était le jeune David, et c'est lui qui a été oint. Donc ce à quoi le Seigneur nous appelle, on l'accomplira. Si nous avons la foi, si nous disons, ah non, moi je ne peux pas, on m'a pris la place, ou un autre fait, non, non, non. Le Seigneur nous appelle et il va ouvrir les portes. Et enfin, en ce qui concerne l'unité du corps de l'Église, cible privilégiée, car l'incendie peut se répandre rapidement. Et c'est dans l'épître de Jacques où il nous est parlé de la langue, Jacques chapitre 3 et le verset 5. Dit de même, la langue est un tout petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est comme un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, ces membres qui souillent tout le corps et enflamment le cours de la vie comme elle-même enflammée par la géhenne. La langue, je crois que c'est là où il faut veiller le plus, et ce n'est pas évident, nous avons besoin de la grâce de Dieu, du secours de Dieu, d'être remplis de l'Esprit, afin que nos langues soient des instruments, un instrument entre les mains de Dieu. Le diable nous incitera à parler mal d'un frère, d'une sœur, ou même à écouter des propos mauvais, et là je touche à l'unité du corps. C'est pas simple, on se fait pas des amis parfois, mais il faut prendre position et dire non, je refuse. Que Dieu nous aide à fermer nos oreilles à tout ce qui touche le corps de Christ, ou à mettre un mort à notre bouche, et qu'il ne sorte de notre bouche que des paroles de grâce assaisonnées de sel. Voilà ce qui contribuera à l'édification. C'est pas simple. Si c'était simple, toutes les églises se réunissent parfaitement. Donc c'est un combat, et c'est un réel combat. Et le diable lance ses traits enflammés afin que nous puissions, eh bien, tomber dans ces panneaux, que nous soyons atteints par ces flèches. Alors par la foi, par le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre, il nous est dit dans le texte, tous les traits enflammés du malin. Alors quand Dieu dit quelque chose, c'est important. Il ne dit pas « nous éteindrons de temps en temps une flèche », mais il est dit « nous éteindrons tous les traits enflammés du malin ». Pourquoi ? Par la foi. Mais par la foi, nous voyons qui est Dieu, nous voyons aussi qui nous sommes, nous voulons dépendre de lui, nous voulons être protégés par lui, gardés par lui, mais c'est cela, la foi nous fait entrer dans une autre dimension, dans une autre vision, dans une autre marche. La foi, ce n'est pas être charnel, réagir charnellement, toujours avec des pensées humaines, mais la foi nous fait entrer dans autre chose. Que Dieu nous aide. Ma vie est cachée en Dieu. C'est lui qui justifie. C'est lui qui permettra que des paroles sortent de ma bouche, des paroles de grâce assaisonnées de sel. C'est lui qui mettra des sentiments nobles dans mon cœur, des pensées agir, aimer toujours plus comme Jésus. Je ne veux pas détruire avec le diable, et vous savez, ça se fait même incidemment, ça, hein, ça se fait d'une manière. Je ne veux pas détruire avec le diable, mais je veux construire avec Christ. Jésus a dit « je bâtirai mon Église ». Eh bien, nous devons décider, comme un soldat, il va à la bataille, il sait qui sont ses ennemis, il ne va pas combattre ses amis, c'est les autres soldats, mais il va combattre l'ennemi et défendre, eh bien, le terrain sur lequel ils sont. Alors, je veux construire avec Christ. Et chacun de nous, peu importe où nous sommes, nous avons eh bien, des relations avec des gens, que ce soit avec des inconvertis, avec des frères et sœurs, eh bien, nous voulons bâtir avec Christ. C'est lui qui bâtit l'Église, mais nous voulons être ces pierres vivantes dans lesquelles il pourra se servir. Alors, le bouclier de la foi, c'est de me réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. Bouclier de la foi, c'est, oui, Christ est pour moi un refuge, une forteresse. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui communique, qui me communique ce dont j'ai besoin. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins. C'est lui qui nous inspire et c'est lui qui nous gardera. Frères et sœurs, soyons assurés que tout ce que le Seigneur nous a promis dans sa parole, c'est vrai. Tout ce qu'il a promis, il le tiendra, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Et d'ailleurs, je terminerai ces moments avec quelques promesses que je vais citer. Nous en avons lu une dans le psaume 91, je voudrais la relire au verset 5. Psaume 91, verset 5, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. » Que Dieu nous garde de toutes ces mauvaises pensées qui peuvent venir, de toutes ces mauvaises paroles qui peuvent nous atteindre. Que Dieu nous en garde, que nous ayons ce bouclier de la foi bien trempé, dans l'eau, mais que le Saint-Esprit soit autour de nous et que nous refusions toutes ces choses qui arrivent sur nous. Au verset 7 de ce même psaume 91, il est dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Notre cœur, il est pour Christ, il n'est pas pour le diable, il n'y ait même pas une once pour le diable, notre cœur tout entier, il appartient au Seigneur, notre vie tout entière appartient au Seigneur. Dans le Proverbe 30, verset 5, il est dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Bouclier de protection. 1 Jean, chapitre 5, et verset 4, il est dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est la victoire, c'est Christ qui nous donne cette victoire. Et j'aimerais terminer avec la première épître de Pierre. Voilà, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais je vais le chercher en même temps que vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, je terminerai par là. 1 Pierre 5, et nous lisons à partir du verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez de telles promesses. Si Dieu le dit, c'est qu'il le fait. Il le fera. Il veut faire de nous des êtres fort, inébranlable. Pourquoi? C'est pas notre force. Pourquoi on peut dire je suis fort? Mais il faut continuer. Je suis fort par Christ. Il faut toujours continuer. C'est pas fort par mes forces. Mais si je peux dire je suis fort, c'est parce que Christ habite en moi. C'est lui qui me fortifie. C'est sa force à lui. C'est sa vie à lui. Et c'est la foi que je place en lui. Alors je peux dire oui, je suis fort. En tant que chrétien, je suis fort parce que c'est Christ qui me fortifie. Et nous ne voulons pas dire « Ah, ça va pas, je suis fait ». Oui, on le dit, mais commençons à proclamer et dire « Non, Seigneur, je refuse. Moi, je suis fort en toi parce que tu m'as fait des promesses et je veux me tenir sur ces promesses et par la foi, je les serre dans mon cœur et je marche en vainqueur et pour vaincre. » Soyons de cela et ayons toujours à l'esprit de récupérer ce que l'ennemi nous a volé, parce que dans toutes les familles, l'ennemi a fait des ravages et nous voulons récupérer ce qu'il nous a volé. Et surtout, nous ne voulons pas qu'il touche au reste. Voilà, ce que nous avons, gardons-le, ce bon dépôt, ce que nous avons reçu, gardons-le parce que ça vient de Dieu et c'est trop précieux pour que l'ennemi vienne le saper. Alors, restons fidèles, restons dans ce combat. Alors, c'est vrai que peut-être nous n'avons pas l'habitude de combattre, mais la Bible nous dit qu'il exerce mes mains au combat. Dans ce combat spirituel, c'est plus que la prière. La prière pour les besoins, je comprends, cette prière, elle est nécessaire, la prière pour la journée, la prière pour le repas, la prière pour les nôtres, mais ça dépasse. Là, ça va un peu plus loin, ça va plus loin. C'est se saisir de ses armes, c'est lutter, combattre contre l'ennemi de nos âmes. Voilà, ça va un peu plus loin. Demandons à Dieu qu'il nous conduise sur ce chemin, qu'il nous conduise dans ce combat, qu'il exerce nos mains au combat et que nous puissions voir maintenant des victoires évidentes, des choses en disant c'était impossible du point de vue humain, il ne voulait rien savoir. Et là, d'un coup, il se tourne. Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est arraché aux griffes du malin. Que Dieu nous aide les uns et les autres à l'aide de sa parole, à l'aide de son esprit, eh bien, de nous amener dans ce combat. Et vous verrez que si nous entrons dans ce combat, nous n'aurons plus du tout le temps pour les choses vraiment futiles et les choses charnelles. Nous n'aurons plus le temps parce que c'est trop précieux, eh bien, de servir le Seigneur pendant qu'il en est temps. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais terminer par la prière, ou plutôt peut-être un ou deux frères et sœurs puissent prier. Je terminerai en priant et nous prions bien sûr pour que bientôt nous puissions nous retrouver. Mais je laisse la place, peut-être un ou deux peuvent élever la voix et je terminerai.